Bonjour Dany Robert Dufour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis d'une nature plutôt prudente et je vais d'abord lire pour votre présentation la petite notice qui est en quatrième de couverture de ce livre dont nous allons parler maintenant, le docteur Mabuse et ses doubles, ou l'art d'abuser autrui. Alors je lis, hein. Philosophe, professeur honoraire des universités, Dany Robert Dufour travaille sur les fondements de la culture et ses transmissions. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, parmi lesquels « Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme » en 2019, « La cité perverse » 2009 et « Le divin marché » 2007. Alors, présentation particulièrement sommaire s'il en est, mais c'est la loi du genre pour la page 4 de couverture. Pour mieux vous connaître, j'invite celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à tout simplement se connecter à votre site internet www.dany-robert-dufour.fr qui est fort bien fait, avec plein de documents et même les premières pages du présent livre, dont je dis tout de suite qu'elles sont un vrai régal et qu'elles donnent vraiment envie de lire la suite. Permettez-moi juste de compléter cette courte présentation en citant la fin de votre notice biographique qui figure sur la page accueil de votre site dont je viens de parler. J'aurais tendance à penser qu'elle dit plus de votre réflexion philosophique que la courte note par laquelle j'ai commencé mon propos. Je vous lis, sachant qu'il est question de vous ici à la troisième personne du singulier. Ouvrez les guillemets. Comme il persiste à utiliser certaines catégories venues de l'anthropologie philosophique, jugées désuètes par la postmodernité, entre parenthèses, telle la différence des sexes et celle des générations, certains gens de gauche, avec des tirets, des traits d'union, sans tête, vous avez barré sans tête, vous l'avez écrit S-A-N-S, plus loin, T-E-T-E, sans tête, alors sans tête au sens de s'entêter donc, jusque dans la presse, pour coller à sa critique radicale de la culture de l'époque du capitalisme néolibéral, l'étiquette de réactionnaire, entre guillemets, ou de néo-réactionnaire. Une sottise qui renseigne beaucoup sur l'état intellectuel actuel de la gauche, entre guillemets, pendant ce temps, les vrais gens de droite, là encore avec des tirés, ceux qui prônent le marché total, la considèrent bien sûr comme dangereusement révolutionnaire. Enfin, il a longtemps essayé de jouer du saxophone, comme Charlie Parker ou comme John Coltrane, mais il y a définitivement renoncé lorsqu'il s'est entendu. Depuis, il se console en peignant à ses moments perdus des tableaux qu'il s'est juré de ne montrer à personne ou presque. Fermez les guillemets, j'aime beaucoup ce texte. Alors, page 29, dans votre livre, cette fois-ci, je voudrais commencer par une citation de votre avant-propos. « Cet essai constitue pour moi une épreuve cruciale. » J'ai fait une petite coupure. J'en suis arrivé à une question cruciale. Soit ce savoir accumulé depuis 40 ans est valide et il peut être utilisé pour rendre compte des dispositifs de suggestion mis en œuvre par les maîtres au long de l'histoire, soit il ne l'est pas. Il ne révélera rien d'autre que du déjà connu. Et vous n'hésitez pas à vous soumettre à la question, alors sans que cela ait une dimension inquisitoriale, de points, il s'agit donc d'une mise à l'épreuve de mes thèses, de toutes mes thèses, et vous en faites même une question de repos personnel. C'est rare d'avoir un livre qui commence par un tel engagement de son auteur. Pourquoi cette ambition, Dany Robert Dufour, et pourquoi maintenant ?
Ben écoutez, ça, vous voyez que j'ai déjà un certain âge. J'ai commencé, mon premier livre a été publié en 1988, qui s'appelait Le bégaiement des maîtres. Il a été suivi d'un autre qui a été publié chez Gallimard dans la bibliothèque des sciences humaines, qui s'appelle Les mystères de la Trinité. Donc je travaillais sur la question du tiers. Bon. C'est-à-dire finalement sur la question de ce qui fait loi entre les hommes. Et je n'ai jamais cessé, depuis cette époque, qui remonte quand même à plus de 30 ans, de travailler sur cette question de ce qui fait loi entre les hommes. Quand ce livre, Les mystères de la Trinité, est paru, il a eu un très bon accueil, et notamment par un psychanalyste que j'ai rencontré à cette époque, avec lequel je suis devenu très ami, qui s'appelait Serge Leclerc. Mmh. Et il a fait une lecture très élogieuse de mon travail, et on est devenu donc amis, on s'est fréquenté jusqu'à sa mort, en 1993, et j'ai compris qu'il voulait me passer une sorte de message. Et le message était à peu près le suivant. C'était quelqu'un d'extrêmement subtil, pas du tout dans l'injonction, le conseil appuyé, la recommandation, etc. C'est un psychanalyste, un grand clinicien de son époque. Et il mettait ses sujets au travail. Et il m'a mis au travail sur mes propres thèses. Et globalement, la vie, c'était ce que tu as fait très bien, c'est-à-dire tu as compris quelque chose du fonctionnement des systèmes symboliques humains, mais maintenant c'est fini. c'est-à-dire que nous passons à une époque où ce qui faisait loi entre les hommes est devenu désuet, pour différentes raisons. La première, c'est parce que nous passions d'un système trinitaire, que j'avais essayé de repérer et dans le champ théologique, et dans le champ symbolique, et dans le champ linguistique, par exemple. Quand on parle, on est en général deux, dit-on, il y a un dialogue. Mais en fait, nous sommes trois, parce que je parle à tu à propos de « il ». Donc nous sommes trois quand nous parlons. Il y a donc deux sujets coprésents l'un à l'autre, qui parle d'un tiers qui est absent et qui peut être n'importe quel objet du monde et qui est convoqué par eux dans leur discours. Ça peut être le Big Bang, ça peut être la suite des temps humains, ça peut être n'importe quel objet du monde, y compris des objets qui n'existent pas. Et ce système ternaire ou trinitaire, j'ai compris qu'il commençait à être émoussé. C'était les débuts donc de la. Enfin, c'était nous étions au début de l'époque. Enfin, nous étions dans l'époque postmoderne, et notamment par l'émergence d'un autre système symbolique qui a pris maintenant beaucoup d'ampleur et que l'on pourra appeler, pour simplifier, binaire. Il y a eu une binarisation du monde. On sait le développement de l'informatique, on sait le développement de l'algorithmique, on sait qu'un certain nombre d'algorithmes maintenant règlent nos vies, on sait l'ensemble des appareils auxquels nous sommes assujettis, et donc ceci a induit une transformation profonde de nos systèmes symboliques.
Alors, on va je vous laisse conclure là de quelques mots. Parce que justement, je voudrais qu'on avance et on va rester. Vous verrez qu'on va rester à trois d'ailleurs. Allez-y,
d'accord, très bien, très très bien. Et j'ai commencé après ce travail profond avec Serge Leclerc à me demander justement comment ce système symbolique trinitaire dans lequel nous vivions depuis 2000 ans commençait à être altéré, et ce qui a donné donc un certain nombre de livres comme vous les avez cités tout à l'heure, Le Divin Marché, La Cité Perverse, etc. etc. Voilà. Et c'est toujours ce livre-ci, Mabuse, c'est toujours un livre sur la question du tiers, mais avec un tiers qui a pris une autre forme, qui est un tiers pervers, d'une certaine façon.
Alors c'est Mabuse, quoi. Vous venez de prononcer un des mots essentiels du livre, mais quand je disais qu'on va rester à trois. Non pas à trois en champagne, mais tous les trois. C'est parce que ce livre, c'est aussi une demande paternelle vieille de 50 ans, des années 70 en fait. Alors votre avant-propos est absolument remarquable, il est écrit à la manière de, si je puis dire, et à la manière du vocabulaire de votre papa. Mais vous le débutez cet avant-propos par un extrait d'une chanson de Brassens, Un enfant perdu a de la chance quand il a un père de ce tonneau-là. Alors, j'ai fait ma petite recherche. Donc, c'est dans les quatre bacheliers, une très belle chanson de Brassens, c'est pas la plus connue, hein, enregistrée pour les amateurs en juillet 66 et qui figure sur le CD 9 de l'intégrale de 2006. Il s'agit du père du quatrième bachelier, d'un quatrième bachelier qui se montre bienveillant et tolérant, tout simplement paternel, à l'égard de son fils qui a fauté, quand les trois autres précédemment agonisent ou renient leur progéniture. La chanson de Brassens se termine par « Et si les chrétiens du pays considèrent, devant une telle tolérance de la faute commise, sans vergogne que cet homme a failli, le père, ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile, c'est de l'hébreu. » C'est absolument magnifique et c'est vraiment du grand Brassens. Racontez-nous, j'allais dire, le tonneau de votre père, puisqu'on parle de ce tonneau-là, le tonneau de votre père et la relation qu'il pouvait avoir avec le docteur Mabuse, compte tenu de son premier métier, si j'ai bien lu, vendeur de bijoux de pacotille sur les marchés, hein, puisque d'une certaine façon, c'est lui qui vous initie à Mabuse, non ?
Exactement, exactement. Alors, mon père vient d'un milieu très, très populaire. Et de fait, il s'est retrouvé à l'âge de 20-25 ans à vendre des bijoux de pacotille, des bijoux de fantaisie sur les marchés de France. Et comme il voulait être libre, il avait un esprit, comme on disait à l'époque, anarchiste. Il venait remplir sa valise de bijoux pacotis dans le quartier du Temple à Paris, auprès de sa sœur, ma tante, et il partait sur sa moto aux quatre coins de la France. Et donc, à cette époque-là, on était avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans les années 30-35, jusqu'à 40. Et il y avait encore en France des parlers populaires ou régionaux vifs. Et donc, comme mon père circulait dans toute la France et qu'il avait une intelligence poétique et linguistique, je dirais spontanée, il s'est forgé une langue très singulière, une langue à lui, qui était une sorte d'assemblage de langues volapouc de tous les parlers populaires français.
Une jactance, de l'époque. Une jactance, comme on dit.
Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, comme il mettait cette langue à l'œuvre dans toutes ses relations, y compris dans les relations avec nous, ses enfants, et avec donc ses amis, ça donnait toujours à toutes les discussions un air où on était en train de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas et une volonté qui n'était pas du tout tournée du côté de la langue savante, mais une langue populaire vive et extrêmement incisive, intelligente, poétique, un peu comme les chansons populaires de l'époque, y compris, comme vous venez de le citer, les chansons de Brassens, les chansons de Ferret, etc. Et il a, dans les années où nous étions, où j'étais étudiant, dans les années 60, 68, il y a une certaine année 1968, où il se passe un certain nombre de choses en France, et on se retrouve avec mes copains dans la maison de mon père, et mon père qui était, donc on était partis dans un champ de travail sur le champ philosophique, littéraire, psychologique, etc., sociologique, etc. Et il se trouve que mes copains, donc très engagés politiquement, comme ceux de l'époque, en 1968, se retrouvent assez fascinés par la langue de mon père et se mettent à venir l'écouter pour faire une sorte de... changer un petit peu leur façon de voir, leur façon de penser. Et comme ces gens-là étaient à la recherche d'un contact avec le peuple français en 1968, voilà qu'ils trouvent quelqu'un qui a cette langue extrêmement vive, poétique et populaire. Et il nous parlait souvent de Mabuse en disant « Si vous voulez comprendre quelque chose au monde, allez voir les films de Fritz Lang, Il en a fait quatre, donc les quatre films de, du docteur sur le docteur Mabuse. Et donc on s'amusait beaucoup de cette recommandation. On aimait beaucoup Fritz Lang et on aimait beaucoup les films de, sur le docteur Mabuse. Mais on a compris après seulement ce que ça voulait dire. Et en tout cas, moi, j'ai mis 50 ans à le comprendre. Et c'est comme ça que, donc, 50 ans plus tard, j'ai sorti ce livre qui s'appelle « Le docteur Mabuse et ses doubles ». À vrai dire, ce n'était pas le titre que j'avais choisi. Le titre que j'avais choisi, c'est « Dans la tête ouais. de Mabuse ». Mais ça, comme ouais. Actes Sud a une collection qui s'appelle Dans la tête de, ouais. alors il y a Dans la tête de Jeff Bezos, peut-être Dans la tête de Poutine, je ne sais pas, et Dans la tête de je ne sais qui sont des personnages réels. Donc ça a gêné Actes Sud que je prenne un personnage de fiction
ouais. alors,
essayer d'expliquer ce qu'il avait dans la tête. Alors, et c'était l'apparition, le surgissement, donc de ce maître tordu, de ce maître pervers. Qui remplace d'une certaine façon les tiers que nous avions auparavant connus dans la civilisation et dans la culture.
Alors, ce qui vous fait appréhender Mabuse, c'est votre pluralité d'accès, j'allais dire, et votre regard presque mythologique hein, de ces personnalités de la mythologie qui avaient des yeux, centaines d'yeux partout. Hein.
Oui.
Et vous réglez leur compte aux universitaires hyper spécialistes. Vous avez bien raison. En particulier, vous dites leur fait aux politologues que je crois bien connaître, hein, qui sont souvent parfois parmi les plus prétentieux, parce que comme ils appartiennent à une des dernières sciences humaines, ils en rajoutent dans l'hyperspécialité.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Oui,
hein.
Mais j'assume. Et vous dites, cela donne des savants qui savent tout sur quasiment rien, tant leurs objets deviennent pointus. Et cela vous fait penser à la fameuse toile de Pieter Bruegel l'Ancien, peinte en 1568, oui. un an avant sa mort, oui. La parole des aveugles. Alors, c'est là que vous évoquez Bourdieu, Foucault. Vous dites que vous les avez bien travaillés, que vous avez apprécié, mais vous dites en mettant en avant le fait qu'ils ont chaussé dans leurs travaux des lorgnettes unidimensionnelles, et vous dites que vous êtes de l'ancienne école, celle de Marcel Mauss. Oui. J'allais dire celle à laquelle se rapporte Claude Lévi-Strauss dans le chapitre oui. 5 des structures élémentaires de la parenté, sa grande oui. thèse. Oui, absolument. Commence par ça. L'échange est un fait social total. Et vous voilà. plaidez pour les faits sociaux totaux. Je pense, dites-vous, que le philosophe, comme celui qui s'accorde le privilège de circuler entre les différentes économies, la marchande, la politique, la symbolique, la sémiotique et la psychique. Alors, expliquez-nous cette méthode philosophique, cette démarche, hein, qui est tout à fait oui. intéressante.
Alors, effectivement, ça, c'est le produit de ce que j'essaie de construire donc en une trentaine d'années de recherche. Je me suis dit que c'était bien d'être spécialisé dans une des grandes économies humaines, parce qu'il y a plusieurs grandes économies humaines. Même déjà dire cela aujourd'hui, ce n'est pas évident, parce que la plupart du temps, on pense qu'il y a une économie, c'est l'économie marchande. Les sciences économiques. Et donc, face à cela, je dis non. Il y a une économie symbolique sur laquelle, évidemment, Marcel Mauss a beaucoup travaillé, le fameux « donner, recevoir, rendre hein, », au fondement donc d'une socialité primaire dont il reste encore des parties émergentes dans nos sociétés, dans nos formes de société. Une économie discursive, le fait que, par exemple, ce que nous faisons en ce moment, vous me proposez de réfléchir à un certain nombre de questions à propos de mon propre travail, j'y réfléchis, j'essaie de vous répondre, donc on construit quelque chose dans un échange qui est un essai de construction du sens. Nous ne sommes pas en train, l'un et l'autre, de faire des affaires pour vendre plus cher des produits ou ceci ou cela. Nous essayons de construire du sens. Il existe aussi une économie psychique, On voit, par exemple, je dirais, même aujourd'hui, voilà, nous parlons maintenant, et je viens de lire un article du Monde, aujourd'hui, sur ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et il y a quelqu'un qui travaille dans le champ de la stratégie, et qui travaille donc sur la menace nucléaire qui est agitée en ce moment par M. Poutine. Et quelque part, dans son article extrêmement intéressant, il fait une hypothèse. Il dit, si M. Poutine est un fou paranoïaque, alors cela nous induit dans une menace nucléaire, effectivement, existante maintenant à partir de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc voilà, le champ du psychisme existe aussi. Il existe aussi, bien sûr, parce que ce qu'on appelle l'économie politique est ce qui sait, à un moment donné, ou non, utiliser les passions humaines. On voit, par exemple, dans une période d'élection, par exemple, au hasard d'élection présidentielle, que certains savent ou pas utiliser les passions humaines, et ceux qui savent effectivement les utiliser à leur profit ont des chances de faire un peu plus de voix que les autres. Donc voilà, il existe des grandes économies humaines qui sont en rapport les unes avec les autres, et ce qui me pose beaucoup de problèmes par rapport à la division actuelle des savoirs dans laquelle nous sommes, et que vous venez de relever, c'est que les gens sont spécialisés, très bien spécialisés, ils sont très forts, mais dans une économie humaine, sans voir que cette économie a des effets sur les autres économies. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai essayé de construire ma démarche philosophique comme ayant comme visée la possibilité de passer d'une économie à l'autre, parce qu'il y a ce que j'appelle des effets de transduction d'une économie à l'autre. Par exemple, dans l'économie marchande à l'heure actuelle, avec donc un marché tout puissant comme il existe maintenant, il est bien évident que ce qui peut apporter des satisfactions aux consommateurs, ce qui peut apporter des jouissances aux consommateurs, est extrêmement mobilisé pour faire tourner cette économie marchande. Et cette économie marchande est greffée sur l'économie psychique et sur l'économie des passions qui peut être suscitée aujourd'hui par la présentation d'un certain nombre d'objets qui vous garantissent donc que vous allez être heureux, que vous allez pouvoir jouir de la vie, que vous allez, etc., etc., avec toute une série d'objets de consommation donc qui mobilisent très profondément dans notre économie psychique. Donc, c'est pour cette raison que j'essaie de contourner le phénomène extrêmement dommageable que je crois voir arriver maintenant, qui est l'extrême spécialisation des gens dans chacune de ces grandes économies humaines, et l'oubli de ce que nous avons à penser effectivement quelque chose qui est total, qui est l'ordre du fait social total. Et pour cela, il faut s'autoriser, il faut se donner les moyens, il faut se donner les concepts de pouvoir passer d'une économie à l'autre. Je crois que c'est ceci le cœur de mon travail.
Alors, je crois qu'on avance progressivement. Dans le livre, dans votre livre, et toujours dans l'avant-propos, on découvre, hein, vous nous faites partager le fait qu'un auteur comme Bernard de Mandeville, donc, qui est à l'époque c'était les Provinces-Unies, hein, né en 1670 à Rotterdam, hein, et est mort à Hackney en 1733 au Royaume-Uni. Il vit en Angleterre les 40 dernières années de sa vie. Alors, il est très connu pour la fable des abeilles. Hein, et vous avez d'ailleurs travaillé sur Bernard de Mandeville, vous le rappelez, sur votre précédent livre, Beston prochain. Alors, il faut dire que Mandeville a été aussi un des inspirateurs de Smith, de Hayek, mais c'est surtout Keynes, dites-vous, hein, qui a été... vraiment très, 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 enfin, qui a beaucoup apprécié Mandeville, parce que Mandeville considère que le vice qui conduit à la recherche de la richesse et de la puissance produit involontairement de la vertu. Bon, oui. Et là, on arrive à ce qui va être le couple permanent de votre travail, hein, c'est page 21. Oui. L'étrange et inquiétant attelage qui s'est noué à un moment de l'histoire entre le pervers et le névrosé. Et je vous cite encore, page 23. Je propose donc de faire de cette relation d'emprise du pervers sur le névrosé un tout conceptuel supérieur à la somme des parties, au sens où oui. on retrouve cette relation sous différentes formes dans chacune des dimensions mentionnées. Alors, ça nous amène à Fritz Lang, hein, que vous abordez. Alors, il y a un passage très intéressant, parce que vous dites que Fritz Lang était un borgne, il faisait partie de ces borgnes, ces pirates hollywoodiens. Hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant, vous citez John Ford, Raoul Walsh, André de Tott, hein, qui est le dernier à disparaître en 2002, et même Nicholas Ray, dites-vous, lequel Nicholas Ray, il a perdu son œil après moult difficultés financières et de santé consécutivement à son pépin de santé pendant qu'il tournait les 55 jours de Pékin. Alors, c'était pas le cas de Lang. Qu'est-ce qui est la particularité de Fritz Lang? Il y a tout un débat sur les conditions de son départ d'Allemagne en 1933. Lui, il dit que c'est à la suite oui. d'un échange avec Goebbels. Bon, les historiens disent que c'est un petit peu arrangé, qu'il est plutôt parti. Vous faites état d'un passeport qui montre qu'il est plutôt parti en juillet 1933. Bon, mais il n'empêche que il sent la société allemande des années 20 et des années 30, surtout des années 20, mieux que tout le monde, non?
Oui. Alors, il repère quelque chose qui est donc. Qu'il est le premier à repérer. C'est l'apparition du celui qui est le joueur, truqueur, faussaire. Et ce qui est tout assez remarquable, je trouve, c'est que c'est aussi ce type de personnage qui est en train de se mettre en place de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, avec. Donc, l'apparition de ce qu'on a appelé les spin doctors. Vous savez, ceux qui sont capables de vous vendre des choses qui n'existent pas, de vous proposer des leaders qui étaient inconnus hier, de vous promettre quantité de satisfaction, etc., etc. Et alors, il y a une partie dans le livre où je mets en rapport, donc, l'apparition de ce personnage en Allemagne, qui est un faussaire, il est banquier, il tient tous les personnages à la fois, on ne sait pas qui il est, quand on pense qu'il est l'un, il est l'autre, etc. Avec l'apparition, donc instituée, on pourrait dire, par le marché même, aux États-Unis, de ce personnage, du Spin Doctors, qui est, et je fais donc de Mabuse en Allemagne, donc le correspondant du personnage qui a été mis en place par Bernays, mmh. le neveu de Freud, aux États-Unis, et donc qui, dans la mesure où ces deux vont pouvoir vous vendre n'importe quoi, vous vendre ce qui n'existe pas, et vont pouvoir avoir des relations d'emprise. Sur donc ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient d'acheter, ce qu'il convient de penser, etc., etc. Et voilà, je pense que Fritz Lang est un des premiers à repérer l'émergence de ce personnage juste après donc la première guerre mondiale, et donc il va poursuivre sur donc la compréhension de ce personnage, puis qui fera 4 films, le dernier donc datant de 1960.
Ça, il le fait aux États-Unis, hein, évidemment. Hein.
Non, il le fait de retour, quand il est de retour en Allemagne.
Il rentre en Allemagne, pardon, oui, c'est ça. Oui,
oui, il est rentré en Allemagne. Et c'est en 1960, et là aussi, c'est extrêmement intéressant par rapport à ce qui est en train d'arriver dans l'époque.
Oui,
parce qu'il s'agit de montrer un personnage
capable. C'est l'Allemagne de la reconstruction, oui, oui.
Voilà, ouais. Dans l'Allemagne de la reconstruction, il s'agit de montrer un personnage qui peut voir sans être vu, hein, qui est capable faire voir des choses qui n'existent pas et de ne pas faire voir des choses qui existent. Et là, on entre vraiment dans le jeu, le grand jeu de la manipulation, qui va, à partir des années 60, se mettre en place d'une façon gigantesque jusqu'à nos jours. Il est sorti un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance » qui montre l'ampleur, par exemple, des capacités de manipulation pour donc pouvoir vous faire avoir des idées que vous n'avez pas et vous vendre des objets que vous ne voulez pas. Hein. Ça a pris maintenant, avec l'Internet, avec le téléphone portable, une dimension absolument considérable. Et je crois qu'un de ceux qui repère cela en premier, dès les années 20, il y a un siècle, c'est quand même pas rien, c'est Fritz Lang, avec l'apparition du docteur Mabuse.
Alors, il faut dire aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Fritz Lang va avec Théa von Arbou, qui est sa deuxième femme,
oui.
Qui est la co-scénariste, alors, avec des trajectoires et une pensée différente, hein, complètement entre eux.
Bien sûr.
Mais Fritz Lang, j'allais dire, il va au-delà du propre créateur du docteur Mabuse, dont il faut dire un mot, hein, Norbert Jacques, qui est un luxembourgeois de langue allemande, et qui en fait crée le personnage avant la Première Guerre mondiale. Hein, et c'est l'époque où d'ailleurs il y a comme ça des personnages assez monstrueux qui naissent dans la tête des auteurs, hein. Ferragus et Vautrin chez Balzac, ou par exemple Nosferatu chez Murnau en 22, mais on peut parler aussi de Fantomas créé par Souvestre et Alain en pareil en 1910-1911. Fu Manchu, hein, donc là c'est lié au Japon, hein, créé en 1912 par le Britannique qui est connu sous le nom de Sax Rohmer. Il y a quand même une différence entre tous ces personnages, c'est que par exemple Fu Manchu, Fantomas, ils veulent contrôler le monde, alors que Mabuse, ils veulent détruire, non?
Oui, alors il veut pouvoir en profiter, il veut pouvoir manipuler à sa guise l'ensemble du monde pour pouvoir produire de la richesse.
Ouais.
Et il a un projet, c'est de construire, donc, en Amérique latine, un royaume qui serait son dont il serait absolument l'empereur. Et pour cela, il faut que il puisse donc manipuler connaître toutes les techniques de manipulation et donc ce que j'ai appelé dans ce livre les différents psychopouvoirs. C'est donc une exploration de tout ce champ qu'on appelle les psychopouvoirs. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette question parce que depuis 40 ans, en gros, depuis même 50 ans depuis Foucault, on travaille beaucoup sur les biopouvoirs. Les biopouvoirs, c'est ce qui s'applique sur les corps. Extrêmement important, ce pouvoir de coercition sur les corps. Mais je crois qu'on a laissé un peu dans l'ombre tout l'autre champ, pas donc le pouvoir sur les corps, mais le pouvoir sur les esprits. Et ça me fait donc mettre en relation cet attelage dont vous avez parlé, entre le pervers et le névrosé, relation avec donc les problématiques hégéliennes du maître et de l'esclave. Puisque là aussi, ça porte donc sur la suggestion de l'esclave et sur la maîtrise de l'esprit de l'esclave, pour l'utiliser, pour que le maître puisse l'utiliser à sa guise et à son propre profit. Donc voilà, on est dans un champ où il y a des références littéraires, des références cinématographiques et des références philosophiques fortes, puisque, bon, passe des problématiques donc perverses névrosées qui ont été explorées à l'époque par Freud. Hein. D'ailleurs, le docteur Mabuse se présente comme psychanalyste, hein, c'est-à-dire celui qui peut prendre barre sur l'esprit de l'autre et pouvoir maîtriser, tenir l'autre à sa guise. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire se rencontrer, d'une certaine façon, les problématiques de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel avec les problématiques freudiennes du pervers et du névrosé, et de montrer qu'il y avait probablement un passage à faire. Et ce passage, je peux le faire, je le fais souvent, justement, en utilisant les explorations de Lacan à ce propos-là. Parce que, bon, il connaissait bien les problématiques du maître et de l'esclave, il avait suivi le séminaire de Kojève entre 1933 et 1939, et il n'a jamais cessé de travailler sur les rapports du maître et de l'esclave, puisqu'il a repris cette question en 1968, où la question redevenait absolument actuelle, et donc en couplant ça avec donc l'apparition d'un maître qui est un maître pas à l'ancienne, mais un maître nouveau, c'est-à-dire un maître pervers, un maître manipulateur,
Lacan,
un maître de l'emprise, si vous voulez.
Lacan, Freud eux-mêmes, vous dites que ce sont des grands pervers au sens de manipulateurs aussi, hein, quand même. Hein, alors, on rencontre la figure du pervers social très tôt dans votre livre. Je vous parlais des références cinématographiques. Vous dites que, par exemple, le pervers social, un peu à la Mabuse, on le trouve chez Martin Scorsese dans Taxi Driver.
Oui.
On le trouve chez Abel Ferrara dans Bad Lieutenant. Chez Martin Scorsese, oui. on peut, j'imagine, vous serez d'accord avec moi, cher Danny Robert Dufour, évoquer Bill the Butcher, hein, Bill le boucher dans Gang of New York, hein, remarquablement interprété, oui, par Daniel Day-Lewis. Hein, mais il y en a un que, oui, vous épinglez au passage, c'est DSK, hein, Dominique Strauss-Kahn, homme de gauche, solidaire des pauvres. Il mérite d'être nominé, dites-vous, dans la shortlist des grands pervers contemporains. Vous rappelez qu'il a pris le risque de payer 30 000 fois le prix d'une turlute furtive sur les trottoirs de Manhattan, alors à $50, je vous cite. Hein. Et vous écrivez, 30 000 fois, c'est lié à la transaction qui aurait été secrète, mais passée avec Madame Diallo. Hein. Et vous écrivez qu'il a fait banco pour montrer ce que valait au juste la dignité. Je rebondis sur ce terme parce que on le retrouve pas forcément souvent après dans le livre, mais,
oui,
dans l'attelage pervers névrosé, vous dites ce qu'il faut, c'est surtout que le pervers procède d'une déclinaison extrêmement signifiante, hein, d'une subjugation, dites-vous, du oui, névrosé. Hein, le névrosé doit, oui, être subjugué par le pervers. Mais il y a,
c'est
aussi
ça,
la question,
subjugation,
de la,
oui,
voilà, la subjugation. Il y a aussi la question de la dignité. Je voulais vous poser, oui, la question. Est-ce que vous ne pensez pas que la valeur de la dignité est toute relative? S'il avait violenté sa successeur à la tête du FMI, par exemple, Christine Lagarde, oui, au lieu de Nafissa Atou Diallo, il aurait dû payer bien plus que la transaction secrète de 1,5 million accordée à une femme de ménage à peine régulière dans son statut aux États-Unis, travaillant au Sofitel de New York. La dignité, oui, elle est liée aussi au statut du névrosé, non ?
Oui, absolument. Alors, je crois que la question de la dignité est extrêmement importante pour le pervers, parce que le pervers est celui qui veut montrer que la dignité n'existe pas, puisque elle peut s'acheter.
Voilà.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un passage de Kant, c'était dans la Métaphysique des mœurs, je crois. Il dit, c'est une formule très ramassée de Kant, il dit « tout a un prix ou une dignité ».
Vous le citez, vous le citez.
Et ce, oui, oui, qui, oui, n'a pas de prix, c'est ça qui a une dignité.
Oui, oui.
Et justement, l'obsession du pervers, c'est de montrer que tout a un prix et donc rien n'a de dignité, et que la dignité peut s'acheter. Donc je paye, et tu vas voir que tes beaux principes, je peux les acheter et les faire taire, et je peux faire disparaître ta dignité. Donc c'est vraiment ça aussi la subjugation, c'est-à-dire ce qui n'est pas achetable, l'amour, l'amitié, l'opinion, tout peut s'acheter. Et là, on entre vraiment dans un univers qui est l'univers de la marchandisation totale, c'est-à-dire que les plus beaux des sentiments humains, même ceux-là, même ceux qui n'ont pas de prix, le pervers se fait fort de pouvoir les acheter. Et c'est là-dedans que l'on reconnaît, je crois, la marque perverse la plus forte.
C'est passionnant ce que vous dites, parce que ça renvoie au fameux « nun sum dignus » des pères de l'Église. Hein,
oui.
Le « nun sum dignus », nous ne sommes pas dignes, que l'on peut corréler à la problématique du trafic d'indulgence. Et vous avez certainement
oui, suivi... Oui, absolument, mais bien sûr.
Vous avez certainement suivi que un des embarras de la commission Sauvé sur le scandale de pédophilie dans l'Église de France, ça a été quand il a fallu passer à la réparation. Parce que
exactement.
Si on évaluait une somme due en compensation, en réparation, ça crée un tarif aussi, d'une certaine
façon. Exactement.
Hein, donc ça, c'est extrêmement
voilà.
intéressant.
Ça crée quelque chose que l'on peut acheter, puisqu'on
voilà,
peut
voilà.
réparer
oui, oui.
l'irréparable, d'une certaine façon.
Alors, donc, vous dites qu'il y a d'autres DSK. Bon, on passera assez vite. Hein. Et alors, ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que vous voulez faire avouer les docteurs m'abusent. Mais vous dites, vous ne croyez pas à la torture, hein, ni au stalinisme, ni à l'islamisme radical, et vous choisissez, et ça c'est extrêmement, j'allais dire, l'apport dans votre livre, vous choisissez une parole philosophique qui consiste à se soustraire au rapport de force pour privilégier le rapport de sens. Et vous plaidez oui. pour l'ironie, plus efficace, dites-vous, que la torture ou le coupe-coupe. Et en faisant cela, vous êtes oui. vraiment, j'allais dire, dans la tradition philosophique socratique. Alors, en vous lisant, j'ai pensé évidemment à la plaisanterie de Kundera, ou au livre formidable d'un dissident soviétique, hélas oublié aujourd'hui, Alexandre Zinoviev, hein, Les hauteurs béantes, hein, publié en 76, oui. Zinoviev est mort en 2006, où il mettait en avant la question de l'humour et de l'ironie contre oui. le soviétisme, en quelque sorte. Quelles sont les potentialités de l'ironie pour accoucher, j'emploie un terme volontairement socratique, pour accoucher du sens caché des choses.
Si j'ai bien compris Socrate, que j'ai pratiqué pendant un certain temps, que je continue de pratiquer depuis un certain temps, le travail d'accouchement que produit Socrate, c'est justement par l'ironie. C'est-à-dire qu'il prend un certain nombre de propositions qu'il pousse jusqu'au bout, il prend un certain nombre de propositions dont il montre que si on soutient l'inverse, elles donc montrent justement ce qu'elles essayent de cacher. Et je crois que c'est ça le travail philosophique. Le travail philosophique, c'est un travail qui fait apparaître, donc par l'ironie, un certain nombre de questions qui sont fondamentalement cachées. Et donc c'est un travail de révélation pour montrer ce qui était caché. Donc si on pousse par l'ironie, eh bien on fait apparaître des choses qui normalement n'apparaissent pas. Et c'est ce que j'essaye de faire en donnant donc la parole à ces différents m'abuses de l'histoire pour essayer de montrer... Alors, moi, je leur oppose un certain nombre de lois. Mais eux, parce que, bon, c'est mon travail, je pense, à tort ou à raison, avoir établi, je dis bien à tort ou à raison, hein, je ne pense pas que mon travail est absolument... c'est la suite qui nous dira ce que ça vaut, ce que j'ai essayé de construire comme proposition de fonctionnement dans le champ de la culture. Mais j'ai établi des propositions et donc je les confie à ces différents m'abuses de l'histoire pour montrer comment ils pourraient les contourner. Et donc, voilà, c'est le cœur du rapport du pervers à la loi. Il sait qu'il existe, la loi existe, mais il veut la contourner pour la faire travailler à son profit. Et donc, c'est pour ça que je reprends un certain nombre de ces m'abuses de l'histoire pour montrer, essayer de montrer comment il peuvent, ils ont pu essayer de profiter des lois qui ont été à un moment donné établies dans les différentes cultures, humaines.
Alors c'est là que votre écrit, votre ouvrage est malin, mais pas au sens du mal, mais au sens de subtil à la métisse, si je puis dire, hein, à l'intelligence rusée, c'est que vous usez de ruse pour traquer Mabuse. Hein,
oui, exactement.
Et c'est très intéressant parce que page 49, vous distinguez trois types d'artistes. Ceux qui se soumettent, hein, comme Théa von Harbou, hein, deuxième épouse de Fritz Lang, on a déjà parlé, hein, donc qui va, elle, pencher du côté des nazis. Ceux qui se démettent, comme Fritz Lang, qui s'exile d'abord en France, puis aux USA en juillet 1933, et ceux qui se soumettent tout en se démettant,
hein,
qui servent apparemment le maître, comme Molière ou Lully, vis-à-vis de Louis XIV, dites-vous. Cette typologie rappelle d'ailleurs aussi celle d'un auteur dont vous dites que les économistes feraient mieux de le relire, c'est Albert Hirschman. Remarquable penseur.
Absolument, l'économie des passions.
Dans une note de bas de page, page 22-23, et je rappelle que Hirschman dit que face à une situation, un acteur peut faire loyalty, exit ou voice. Autrement dit, il se soumet, exit, il se démet, et ou voice, pardon, mais il gueule. Hein, je dis au passage, autrement dit, il semble se soumettre, vous dites, sans se démettre. Et vous parodiez d'ailleurs ici le grand Serge Gainsbourg, hein, dans Pauvre Lola, faut savoir s'étendre sans se répandre. Vous êtes de la catégorie, et on va l'évoquer par des exemples dans le chapitre, dans différents chapitres de votre livre, vous êtes de la catégorie de ceux qui parlaient à la place de Mabuse, vous faites parler Mabuse, hein, c'est pour ça que le livre est très intéressant, puisque vous parlez sans arrêt, le Mabuse dit « viens petit », etc. Il y a une pédagogie au sens étymologique de Pays Agrain. À l'égard du lecteur.
Absolument, on peut le dire tout à fait comme ça.
L'entraîner par la main, hein, l'esclave qui emmène l'enfant à l'école. Et ce travail de pédagogie est extrêmement éclairant puisqu'il met en évidence un certain nombre de Mabuses cachés. Et il y a un premier Mabuse, on est surpris un peu de le voir, c'est Moïse. Moïse était un grand pervers.
Alors, tout ça a à voir avec
Avec Freud, bien sûr.
C'est ça, la lecture qu'avait faite Freud, avec vous savez, l'homme Moïse et le monothéisme, donc où le monothéisme aurait été apporté de l'extérieur par un nom juif. Hein. Et donc je construis tout ceci sur la particularité de Moïse, qui est le bégaiement de Moïse, et donc qui donne un système symbolique qui est en bégaiement permanent, donc d'une extrême puissance et d'une extrême originalité, à commencer par le nom que Moïse recueille de Dieu en hébreu, donc ayez et cher ayez, je suis celui qui suis, avec cette répétition. Et donc qui fait entrer tout ce système dans une résonance permanente et qui lui permet un déplacement permanent à l'intérieur de lui-même, avec ce jeu même à l'intérieur de la construction de la phrase, ce jeu bégayant à l'intérieur de la construction de la phrase, et qui me semble tout à fait avoir avec ce qu'on a appelé l'humour juif, qui est capable donc de tenir les propositions les plus inattendues et avec l'extraordinaire profit que donc l'humanité a pu tirer de ce jeu permanent à l'intérieur des propositions.
Les maîtres hassidiques de l'Europe centrale du 19e siècle, hein, je pense aux Becht en particulier, hein, emploient une très belle expression, ils disent qu'il faut lire les textes, les lire aux éclats. savez, comme,
voilà.
Comme quand on dit de rire aux éclats. Hein, voilà, hein,
voilà, c'est voilà, ça, c'est ça, c'est ça.
Alors, il y a un autre pervers.
Et par exemple aussi, ce qui va dans le même sens, que sur quoi je travaille à un moment donné, de faire voir les voix, par exemple. Vous voyez ? Et il y a toute une série de propositions sidérantes, comme ça, à l'intérieur du judaïsme, qui ont à voir avec ce jeu interne sur lequel la phrase est construite.
Oui.
Ce jeu bégayant, ce jeu dédoublé sur lequel la phrase est construite.
Alors, vous allez alors, on aurait le temps, on parlerait d'Ulysse, hein,
oui.
Autre pervers. Je voulais juste vous dire, on va pas passer trop de temps sur Ulysse, mais... Il n'est pas si malin que ça, quand même. Il n'est pas si intelligent que ça, Ulysse.
Oui.
Il est présenté comme le grand, comme un grand rusé, comme celui
oui,
qui
le héros aux mille ruses. Oui, oui, oui,
oui, oui, oui, oui. Sauf que il n'est pas très inspiré quand il va donner son vrai nom à Polyphème.
Ah oui, bien sûr.
Poséidon va l'embêter pendant 10 ans après à cause de ça. Donc il se
bien
dévoile.
Sûr,
il
bien fait, sûr.
Donc l'erreur est humaine. Hein, comme,
oui, bien sûr. Hein, mais excusez-moi, je vais le dire un peu gaillardement et familièrement, mais il se fait couillonner pendant 10 ans. Quoi.
Oui, 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 oui.
Et donc il est empêché.
Oui,
et je crois que c'est ça le trait du polythéisme grec. C'est... donc, de présenter un homme qui est empêché, en l'occurrence empêché de rentrer chez lui, et empêché de connaître également la vérité, parce que, voyez par exemple comment ça se passe, avec Oedipe, quand Oedipe veut connaître la vérité, il va consulter l'oracle.
Il fait n'importe quoi,
Et voilà, et donc il est en train de produire l'oracle qu'il est en train d'essayer d'éviter, vous voyez.
Alors,
et donc, c'est l'empêchement permanent, c'est le trait du polythéisme grec qui a à voir avec ce côté pervers, qui est en jeu aussi dans... si vous voulez, le côté pervers par rapport à la loi, c'est... Moi, je présente ça comme les deux faces d'une médaille. Dans la médaille, il y a le côté du droit, et puis, justement, il y a l'autre côté qui est... le côté de l'usage pervers du droit. Et ça, c'est toujours à l'œuvre dans toutes les grandes cultures humaines, cette présentation du droit et, de l'autre côté, de l'usage pervers que l'on peut faire de ce droit, de cette figure du tiers.
On doit avancer, hein, parce que à chaque fois, m'abuse, tel que vous le faites parler, aborde des comportements, des attitudes. Je pense en particulier à ce qu'il dit de Lacan. Hein, Mabuse dit que Lacan l'amuse. Hein, voilà. Hein, alors là, vous dites, Mabuse considère qu'il y a du maître en Lacan, un savant fou génial et halluciné, capable de transmettre à d'autres ses hallucinations. Comme le psychiatre Baum Mabuse, dans le testament du docteur Mabuse, c'est ce fameux film où le psychiatre directeur de l'hôpital psychiatrique est enfermé, hein, et il dirige le...
C'est ça,
le monde,
c'est ça,
hein,
c'est
voilà,
tout à fait ça.
Hein.
Et donc le personnage de Mabuse passe de Mabuse qui est enfermé au directeur de l'hôpital psychiatrique qui reprend à son compte le rôle de Mabuse.
Je suis vraiment désolé parce que on pourrait parler de votre livre pendant,
non, mais bien sûr,
pendant des heures. Pardonnez-moi.
Oui.
Donc, vous avez abordé le passage du grand sujet multiple au grand sujet unique.
Oui.
On en a parlé, hein, avec
oui,
le monothéisme.
Oui.
Mais pour conclure, Mabuse dit que bientôt il n'y aura plus besoin de petits sujets, plus besoin d'une force de travail humaine. Je pensais en vous lisant à ce patron d'entreprise, l'entreprise Alcatel, Serge Chourouk, qui disait qu'il y aurait bientôt des usines sans ouvriers, hein, plus besoin d'ouvriers.
Oui, c'est ça.
Vous dites parce que Mabuse parle d'un tournant historial préparé par une bonne grosse anesthésie depuis 50 ans, celle du titainment. Hein.
J'ai pas entendu. Excusez-moi.
Mabuse parle d'une grande anesthésie. D'une grosse anesthésie depuis 50 ans, celle du Titeinment. Le Titeinment.
Oui, 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 c'est ça, Titeinment. Oui, oui, absolument.
Tita, excusez-moi, c'est moi qui prononce mal. Titeinment. Et vous allez nous dire ce que c'est. Et là, ça fait penser à... Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de ce linguiste italien qui s'appelle Raffaele Simone, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Monstre Doux, où il traite de la période Berlusconi, hein, en Italie.
Ah oui, oui, exactement.
C'est
oui,
exactement le Titeinment.
Alors, exactement, exactement, exactement.
Et en quoi ça crée une espèce d'anesthésie générale?
Ben écoutez, c'est donc l'entrée.
Qu'est-ce que c'est Titeinment?
Oui, alors Titeinment, c'est la rencontre, c'est un mot valise qui est d'un côté, il y a entertainment, donc le divertissement, et tit, c'est les seins. Donc c'est un divertissement un peu où vous tripotez quelque chose d'un peu malsain comme ça, qui a tout à fait à voir, vous avez complètement raison, avec ce qu'a proposé la télévision berlusconienne, en particulier, mais aussi en général dans beaucoup de pays dans le monde. Par exemple, je vais assez souvent au Brésil, je vous assure que la télévision brésilienne, c'est aussi donc de ce côté-là du tripotage permanent, dans une ambiance un peu obscénisante, à la fois infantilisante et obscénisante. Et donc, faire entrer ce personnage, d'une certaine façon, dans les familles, dans la domesticité, au sein même de la famille, avec la place éminente qu'a prise pendant tout un temps la télévision à l'intérieur de l'espace domestique, c'était faire entrer donc les familles dans cette espèce d'ambiance obscénisante, avec la promesse qui leur était faite de pouvoir obtenir des satisfactions relativement facilement, de la rigolade relativement facilement, avec des publicités qui revenaient de façon régulière pour leur proposer ce qui était bien pour qu'ils puissent... pour qu'ils puissent profiter tous les objets de consommation possibles et imaginables. Et c'est ça l'anesthésie qui a été faite, parce que ça propose donc un champ consommatoire, mais consommatoire de bas niveau, hein, qui ne peut venir qu'en contradiction avec ce qu'on pourrait aussi penser que la télévision est capable de faire, c'est-à-dire d'entretenir un esprit qui est un esprit de pensée, de réflexion, un esprit critique, un esprit où on doit essayer de se faire une idée sur tout ce qui y arrive. Là, c'est le contraire. C'est vraiment un endormissement avec des promesses de satisfaction assez basses qui a été faite de façon permanente au sein même des familles.
Hein. Alors, on comprend bien l'évolution, hein, et comment Mabuse peut, d'une certaine façon, se satisfaire de cet état, hein, des sociétés contemporaines. Alors, dans votre postface, vous réfutez par avance la critique de complotiste que l'on pourrait vous adresser à la lecture de votre ouvrage. Dites-nous pourquoi cette critique pourrait vous être faite, et que dirait-elle de l'état actuel du débat intellectuel aujourd'hui en France, pour reprendre vos propres termes que je citais au début de notre échange, en rappelant les mots de la page d'accueil sur votre site internet. Qu'est-ce que cette critique, pourquoi est-ce qu'on pourrait vous taxer de complotisme?
Ben, écoutez, cette critique a été est très fréquente maintenant. Quand on essaie de construire un travail critique pour dire « Ah, mais vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous êtes complotiste, vous identifiez, par exemple, des Mabuse, vous identifiez des maîtres comme étant les responsables de tout ce qui est en train d'arriver dans le monde. » Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'on peut m'adresser cette critique donc de complotiste, que c'est pourquoi j'ai essayé de la récuser en montrant que, Au contraire, j'essaie de montrer comment ça fonctionne dans le champ de la culture et dans le champ d'une historicité générale, avec donc les possibilités que ce système arrive à la fin du rapport maître-esclave, où le maître se débarrasserait de l'esclave parce qu'il n'en a plus besoin, tout simplement. Et parce qu'il n'a plus besoin d'instrumentaliser une partie de l'humanité pour en faire sa force de travail, parce que maintenant nous avons un système de robotisation, de machines, etc., qui permet de se passer donc de l'esclave, tout simplement. Et donc le maître pourrait devenir le maître avec donc un certain nombre de visées qui ont toujours été présentes dans l'humanité, qui sont des visées qui sont maintenant données par exemple le post-humanisme ou le transhumanisme, qui est l'idée d'échapper à la condition qui était la condition de tout le monde, c'est-à-dire ben voilà, un jour ça s'arrête et nous mourrons. Donc il y a une proposition là qui est faite par le maître pour que le maître en profite, et donc on laisse les esclaves où ils étaient, on n'en a plus besoin puisque tout ça maintenant a été mécanisé, robotisé, et nous pouvons arriver à un seuil de vie complètement supérieur. C'est-à-dire donc où l'horizon de la mort, qui était l'horizon de tout homme, serait écarté. Donc il y a là quand même une visée du maître qui est quand même très présente hein, dans tout ce qui se donne comme proposition actuelle qui se pourrait être faite par comme un horizon nouveau, comme un tournant historial nouveau. Voilà, alors c'est sur cette bascule que j'essaye de travailler,
oui, parce
sur cette bascule historiale, qu'on voit arriver, hein, il me semble que l'on voit arriver.
Justement, à propos de cette bascule historiale, vous rappelez que la prescription dominante aujourd'hui, dans les démocraties de marché, c'est cause toujours, en opposition à celle que vous appelez ou rappelez dans les dictatures stalinoïdes ou fascistoïdes, qui serait ferme ta gueule. Vous dites, et vous écrivez dans votre ouvrage, que vous n'avez voulu ni l'un ni l'autre, ni vous taire, ni parler en vain. Mais je vous ai trouvé plutôt pessimiste à la fin de votre livre. Vous dites « Je dois donc à mon grand âme admettre qu'il y a peu d'espoir pour que l'homme cesse un jour de prendre des vessies pour des lanternes, ce qui me conduit vers une conception tragique de l'histoire, tranchant avec mes aspirations de jeunesse, où je croyais dur comme fer à une libération possible. » Alors, et dans vos derniers mots, vous dites, j'espère avoir repassé à quelques lecteurs ce que mon père s'était forcé de me transmettre, se déprendre des pièges et sortilèges disposés par les maîtres. Alors, je dois dire à ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, que vous y êtes parfaitement parvenus, hein, je vous rassure. Pour autant, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qui nous assure que vous n'êtes pas la ruse suprême du docteur Mabuse ? Non pas celle qui saurait nous abuser, mais qui aurait fait de nous des désabusés. J'aurais tendance à vous demander, pour conclure, votre acuité visuelle aux deux yeux, car si vous avez un œil presque aveugle, cela confirmerait mon soupçon.
Écoutez, c'est une magnifique chute. Je ne sais même pas s'il faut y répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que...
Vous êtes pessimiste, quand même, Dany Robert Dufour ? Vous êtes inquiet ?
J'ai une part de pessimisme, parce que toutes les grandes aspirations de libération collective me semblent avoir fait long feu. Et le seul optimisme que je conserve, c'est la capacité pour des sujets individuels de pouvoir parler en leur nom, continuer à faire un travail critique. Ça, j'y crois dur comme fer. Et ça, je ne veux pas laisser tomber ce côté-là. Je veux dire, ça engage mon travail philosophique. C'est-à-dire que si je peux repasser à d'autres une capacité critique sans que ceci fasse nécessairement le bonheur du peuple, et bien je pense que je n'aurais pas complètement perdu mon temps et perdu ma vie à courir derrière des choses qu'on ne peut pas atteindre. Au moins ça, je l'aurais passé à quelques-uns.
Voilà. C'est ça la magnifique chute. Merci à vous. Merci beaucoup, Denis Robert Dufour. Et je redonne.
Grand merci, grand merci à vous.
Le docteur Mabuse et ses doubles, ou l'art d'abuser autrui. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.